Bonjour à tous, bienvenue à Radio Aligre. Nous sommes le 19 mars 2022, il est bientôt 16h. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous, voilà, chers auditeurs.
Isabelle Raviolo, Nathalie Perrin, moi-même, nous sommes ravis de nouveau de reprendre l'émission Philosophie au présent, oui. Une émission qui est en partenariat avec le Collège international de philosophie et Radio Aligre qui nous accueille depuis maintenant presque 3 ans. Trois ans, Isabelle.
Ouais. 3 ans, Nathalie.
Voilà, on a tenu 3 ans et on est ravis de travailler avec Radio Aligre. Et puis on tient d'emblée à saluer le technicien Axel. Et je fais un léger Larsen. Vous m'excuserez, Axel, qui est là derrière et qui fait en sorte que notre émission, voilà, soit bien, bien audible par nos auditeurs. Alors aujourd'hui, Isabelle, tu es en tout cas à l'origine de cette émission aujourd'hui parce que tu nous as proposé un invité qui est voilà, il s'appelle Guilhem Chamera et tu vas nous le présenter. Il va nous parler de musique.
Alors Guilhem Chamera est un étudiant en philosophie à la Sorbonne. Et il est spécialiste de musique. Il a lui-même créé sa chaîne YouTube dont il va nous parler.
Oui, bonjour. Je suis le créateur de la chaîne YouTube Sophronie Christ, qui compte aujourd'hui 6000 abonnés. Et mon ambition était de faire connaître certains enregistrements de l'histoire de l'interprétation classique qui étaient méconnus ou qu'on pouvait trouver sur YouTube dans une qualité assez médiocre. Et donc, j'ai créé cette chaîne et ça a marché. Et j'ai lancé depuis plusieurs mois, en tous les cas, mon podcast en se concentrant sur un interprète qui a marqué l'histoire de l'interprétation.
Alors, on peut peut-être annoncer un peu la thématique de cette émission, c'est-à-dire les grandes lignes de cette émission, puisque, Isabelle, aujourd'hui, c'était vraiment l'idée d'essayer de montrer que la musique n'est pas un langage et qu'elle n'est pas subordonnée au statut de la parole. Alors, ça sera un peu la posture de cette émission.
Oui, c'est ça. C'est une posture qu'on va essayer de défendre aujourd'hui dans le dialogue qui va nous réunir. Et justement, c'est intéressant de penser un peu à rebours de ce préjugé qu'on a sur la musique en l'associant à un langage. Alors, si j'insiste sur la dimension du temps, c'est peut-être, Nathalie, pour rappeler la thèse de Vladimir Jankélévitch et ce lien qu'il fait avec l'ineffable. Mmh. Et si je le lis aux éditions Essai, hein, La musique et l'ineffable, Vladimir Jankélévitch l'associe au temps et au mode de l'immédiat. Alors c'est intéressant parce que ce qu'il propose comme rapport entre musique et ineffable, c'est intéressant dans la mesure où il l'associe à l'espressivo inexpressif. Et je retiens de sa thèse, à la page 32, « Celui qui ne dit rien ne peut a fortiori redire, Nathalie. Aussi, les répétitions ne sont-elles pas a priori choquantes en musique et pas plus que ne sont choquants les refrains ou les ritournelles des chansons ou les alternances périodiques du rondeau. » Alors là, il parle de Forêt, de Debussy, et il rattache à l'harmonie quelque chose qui relève d'un imprévisible ou une réalité un peu immédiate, dit-il, renvoie à ce qu'on peut appeler la fantaisie. La fantaisie qui, avec Bergson, montre comment, finalement, chaque élément musical va réengager une sorte de renouvellement et dans ce renouvellement, quelque chose qui, par-delà le langage, a un effet, dit-il, incantatoire, exactement comme une réalité qui prend part à l'infini. Alors, à partir de cette thèse de Vladimir Jankélévitch, où il y a dans la musique une double complication génératrice de problèmes métaphysiques et de problèmes moraux, la musique à la fois inexpressive et expressive, j'aimerais poser une première question à Guilhem. vous qui êtes musicien, qui animez une chaîne YouTube, Guilhem, la musique, est-ce qu'on peut dire, comme on l'entend souvent, qu'elle est un divertissement sans portée ?
Alors, je fais juste une petite rectification. Je ne suis pas musicien, et c'est ma chaîne s'appuie aussi sur ça. Pour répondre à votre question, est-ce que vous pourriez la repréciser plus ?
Ben, voilà, moi j'aimerais que vous nous disiez en quoi finalement la musique touche une corde sensible en l'homme qui, par-delà le langage, indiquerait au fond un sens rattaché à une infra-phénoménologie, on pourrait dire.
Alors, sur le sens donc dans la musique, est-ce qu'il y a un message qui dépasse la musique, c'est bien ça ?
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est une grande question, et c'est aussi la question, j'imagine, de est-ce qu'il faut mettre des paroles dans la musique ?
Voilà, ouais.
Quelque part, on a longtemps fait avec et sans paroles. On a fait la musique instrumentale jusqu'à il y a très peu de temps, et aujourd'hui, c'est la musique la plus populaire certainement, et auprès de toutes les générations aujourd'hui, c'est la chanson. Mmh. C'est la musique, il y a des paroles qui disent quelque chose au-delà de la musique, et l'instrumentation est en quelque sorte un support pour les paroles. Néanmoins, plusieurs visions, notamment chez les interprètes classiques, s'affrontent sur le fait est-ce qu'il y a un véritable sens à mettre dans la musique en elle-même. Et c'est le propos, par exemple, du chef d'orchestre Sergiu Celibidac, qui disait, alors, d'une manière assez particulière, il disait « le commencement doit être contenu dans la fin doit être contenue dans le commencement ». Et c'est un point de vue uniquement de l'interprète, parce qu'en fait, quand Celibidac dit ça, lui, il a la partition sous les yeux, et il sait qu'il va devoir intégrer sa vision de la fin dans sa vision du commencement pour donner une cohérence. Et son propos, le propos qu'il va porter dans son interprétation de l'œuvre, l'œuvre qui bien souvent n'est pas la sienne, eh bien, il doit être cohérent pour être le même, et non pas forcément pour divertir, mais pour apporter quelque chose de nouveau, soit dans l'histoire de l'interprétation, soit au moins à son public. C'est tout l'enjeu du concert. C'est par exemple pour ça qu'on va voir un concert alors qu'on n'achèterait pas forcément le disque en musique classique. Peut-être que le disque du même concert n'apporterait pas grand-chose à la discographie, néanmoins, l'écouter en concert apporte quelque chose de plus, une dimension supplémentaire, ajoutée en plus au vrai grain des instruments. Et pour revenir à Celibidac, eh bien, c'est un rôle de l'interprète qui est différent de celui du public. Parce que le public, lui, n'est pas censé avoir connaissance de la fin et du début de la pièce. Il a une pièce qui se déroule d'un bout à l'autre sous ses yeux ou sous ses oreilles. Celibidac, lui, sait le commencement dans la fin, et le public, lui, il a l'impression, lorsque l'interprète est grand, un grand interprète, a presque pour fonction comme de recréer la pièce. C'est une recréation, la musique permanente. Mmh. Et le public, lorsque l'interprète est un bon interprète, a l'impression que la pièce se crée sous ses yeux. C'est ce que je dis souvent dans mes podcasts quand je parle d'un interprète que j'aime beaucoup, c'est que je dis que finalement, par exemple avec Clara Askill qui joue un concerto de Mozart, c'est qu'on a l'impression d'avoir jamais entendu ce concerto de Mozart, et que quand on entend le début des premières mesures, on ne sait pas quelle sera la fin, alors qu'on sait pertinemment, si on connaît la pièce par exemple, on sait très bien ce qui va se dérouler. Et pour autant on est surpris, et la musique a ce pouvoir-là de surprendre.
Du coup, quel serait le rôle de l'interprète selon vous pour des morceaux qu'on peut dire par exemple canoniques et puis qui à l'écoute paraissent toujours nouveaux. Quelle est pour vous la définition ou la posture de l'interprète ? Si on pense par exemple à des interprétations comme les variations Goldberg qui ressortent régulièrement de Bach, on pense à celle magnifique de Glenn Gould, et puis régulièrement il y en a qui ressortent, on pense à celle de Schnabel aussi. Quelle est pour vous, comment ressentez-vous cette posture, cette peut-être nécessité de l'interprétation en musique ?
Bah, l'interprétation, c'est aussi de faire revivre la pièce d'une part, ça c'est le rôle du concert, mm-hmm. faire revivre la pièce à chaque fois, et qui plus est, parfois devant nous, de nouveaux auditeurs, des néophytes même. Mm-hmm. Et au disque, là, le rôle est différent. Le rôle, sans doute, alors c'est peut-être plus subjectif, mais le rôle de l'interprète qui enregistre, c'est aussi d'apporter quelque chose de nouveau. c'est par exemple un nouveau claveciniste qui décide d'enregistrer les Goldberg, il va jouer sur les ornementations, il va par exemple insuffler une nouvelle cohérence, de nouvelles relations entre les variations. Alors dans certaines pièces et certaines séries de variations, alors par exemple on peut penser à l'art de la fugue de Bach, eh bien on ne connaît pas forcément la volonté définitive de Bach quant à l'ordre des fugues qui composent l'art de la fugue. Et donc, on a plusieurs éditions, et les interprètes mettent, par exemple, dans des ordres différents selon ce que les musicologues demandent, et cherchent une cohérence parfois nouvelle, parce que on se retrouve avec un disque et un ordre de l'œuvre qui est inédit, tout simplement.
Alors, on précise à nos auditeurs que cette émission qui s'appelle « La musique, un art du temps » va se poser la question de la musique comme représentation ou non. Alors, peut-être qu'on va écouter un de vos premiers morceaux, Guilhem, que vous avez choisi, Guilhem Chaméra, le final de la symphonie fantastique de Berlioz. Vous nous avez précisé les trois dernières minutes, la direction de Charles Munch, 1967, Orchestre de Paris. Et on vous redonne la parole pour expliciter à nos auditeurs votre choix. Un court extrait, je viens de le dire à l'instant, pris des trois dernières minutes du final de la symphonie fantastique de Berlioz, la direction de Charles Munch en 67, Orchestre de Paris. Vous avez choisi ce morceau, Guilhem, on vous laisse la parole. Pour quelle raison dans cette question de la représentation, est-ce que la musique représente, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'elle est de l'ordre de la reproduction?
C'est toute la question de la symphonie de Berlioz, qui est une œuvre à programme. Et si l'on regarde l'ensemble de la symphonie, il s'y passe plein de choses. On pense à un bal, qui est le deuxième mouvement. Ici, c'est le songe d'une nuit de sabbat que Berlioz cherche à représenter, et il se passe énormément de choses. Là, j'ai pris le final du final, la coda réelle du mouvement. Mais sur le mouvement en entier, qui dure environ 10 minutes, on assiste aux différentes étapes du sabbat. Et Berlioz cherche à représenter beaucoup de choses, par exemple quelqu'un qui claque des dents, qu'on entend juste avant, et ce final complètement en apothéose, mais la symphonie fantastique, notamment par les grands interprètes, s'émancipe de ce qu'elle représente, de ce bal un peu suranné parfois, du final complètement haletant de la nuit de sabbat qui entre presque en transe. Et pour autant, l'interprète, il va au-delà. Il est au-delà de la représentation à tel point que... on ne se sent pas forcément dans un sabbat, on est dans une salle de concert et on entend quelque chose de semi-reproductif, d'assez abstrait aussi. Et c'est tout là la force de la musique aussi.
Mmh. Isabelle ?
Oui, moi j'aimerais revenir sur cet au-delà de la représentation. Qu'est-ce qu'on peut y mettre derrière ? Voilà, parce que ce n'est pas toujours évident de repérer ce qu'on peut entendre, de définir cet au-delà. Si c'est au-delà, comment peut-on en parler? Si c'est au-delà, est-ce que c'est hors d'un monde? Est-ce que, justement, cette relation entre conscience et monde ne vaut pas en musique dans le rapport entre représentation et au-delà de la représentation? Est-ce que c'est une déreprésentation ou une surreprésentation? Enfin, voyez... Je joue sur les mots là, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire ce que vous entendez exactement par cet au-delà.
C'est-à-dire que la musique produit des réactions extrêmement subjectives. Si vous prenez un panel d'auditeurs dans un concert classique par exemple, personne ne ressent la même chose. Et la musique a cette faculté énorme de susciter la création de beaucoup de choses dans l'esprit des gens, souvent des images, quelquefois des couleurs. Par exemple, il y a un critique anglais qui a parlé du jeu du pianiste Clifford Curzon en disant qu'il y voyait plus d'une centaine de nuances de couleurs différentes.
Oui, oui. Et ça me fait penser à ce que dit Marcel Proust dans « À la recherche du temps perdu » quand il parle de la sonate de Vinteuil. Et c'est intéressant parce que ce lien entre la réminiscence, la couleur, les sensations et la musique serait pour vous, au fond, dans l'infinie variation possible, une définition de l'au-delà. Peut-être alors, est-ce que ce serait faux, selon vous, Guilhem, de dire que cet au-delà serait un lieu sans lieu, un temps atemporel, comme une forme, disons, de chaos dionysiaque où l'apollinien de la musique viendrait configurer quelque chose, hein, si je reprends les mots de Nietzsche dans La naissance de la tragédie, j'entends par là une sorte de fond musical qui se rapprocherait de l'idée de silence chez Jean Kelevitch. Alors je reprends la page 155 de La musique est l'ineffable, où Jean Kelevitch dit « La musique est une espèce de silence. Il faut du silence pour écouter la musique. Il faut du silence pour écouter le mélodieux silence. Ce bruit mélodieux, qui est pour lui un bruit mesuré, enchanté, qu'on appelle la musique. Il faut l'environner de silence. » La musique, donc, qui impose ce silence au ronron des paroles, ce serait précisément cette force même de l'art musical où l'au-delà de la représentation est intriqué dans la représentation. Il n'y a pas de représentation possible sans son au-delà, autrement dit, il n'y a pas de parole sans silence. Donc il n'y a pas de musique sans réelle écoute, c'est-à-dire sans la possibilité, si je vous entends bien, Guilhem, de faire place à la multiplicité des variations, des impressions, des sensations, des auditeurs.
Oui, hein, laisser place et le rôle du silence, il est essentiel là-dedans. Tchelibidac parlait des épiphénomènes et il refusait par exemple d'enregistrer des disques parce que ce qui va faire l'équilibre d'une composition, notamment orchestrale, c'est aussi ses silences. Mmh. Et Tchelibidac disait que il y a un moment unique au concert qu'il appelle les épiphénomènes, quand par exemple la musique s'arrête sur un temps de silence et qu'il y a ces bruits, cette ambiance, cette énergie qui vient du public et de l'orchestre en même temps. Il appelle ça les épiphénomènes. Et le rôle du silence en musique, il est essentiel. Alors de la part des auditeurs qui donc doivent se taire, en tout cas dans un concert classique, c'est moins vrai par exemple dans un concert de pop ou d'électro, c'est moins vrai. Mais il y a aussi le rôle du silence qui va faire l'équilibre dans la composition par exemple. Au milieu dans une période de transition dans le premier mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, l'entrée du deuxième thème intervient après un silence. Et, par exemple, beaucoup de chefs vont marquer ce silence. Et il n'y a qu'un seul chef qui va parvenir à faire sa transition dans une cohérence sans mettre de silence, c'est par exemple Carlos Kleiber. Et c'est là qu'on voit que tous les autres chefs préfèrent s'appuyer, préfèrent s'appuyer sur le silence plutôt que sur la note qui va monter, plutôt que sur le crescendo, pour faire leur transition.
Comme si le silence venait mettre en valeur, finalement, la musique. Enfin, la musique n'a de force, finalement, que quand elle sait aussi préserver une certaine part silencieuse dans son interprétation même, dans son expression.
Ah oui, exactement. Et c'est par exemple le cas entre plusieurs variations. Par exemple, dans les variations Goldberg, si vous regardez les performances en public, certains interprètes décident de lier chaque variation sans silence, même pas changer au clavecin la registration par exemple, et d'autres décident de marquer un silence de 5-10 secondes.
Oui. Et c'est la question aussi, puisque vous parlez des variations Goldberg, quand on regarde la première interprétation de Glenn Gould et la dernière, la question aussi de la vitesse de l'exécution, qui a à voir aussi avec un autre type de temporalité et qui donne une toute autre écoute à l'auditeur de ces deux interprétations à je ne sais combien d'années d'intervalle. C'est assez troublant d'ailleurs, hein, ces deux interprétations de Glenn Gould sur la fin, finalement, ce ralenti, alors que la première exécution du jeune Gould est d'une vitesse incroyable. Hein.
Oui, et puis il y a le rôle de la vitesse du tempo, il y a le rôle de l'ampleur. Mm-hmm. Souvent, jouer vite permet de cacher aussi parfois un manque d'ampleur dans la sonorité, par exemple. Mm-hmm. Et il y a la question des reprises chez Gould. Gould ne fait pas de reprises, il ne joue pas sur, par exemple, le côté rassurant que pourrait avoir une reprise, une répétition d'un thème qui pourrait rassurer le public. Non, Gould ne joue pas là-dessus. Et la différence entre ces interprétations est effectivement notable, comme vous l'avez fait remarquer, et c'est peut-être aussi une question de maturité.
Oui, oui. Et puis, justement, on en revenait à cette place de l'interprète, c'est-à-dire de celui qui chemine avec la musique et qui, à travers des années de distance, il met dans une même pièce, en tout cas, il met aussi toute son expérience et sa réflexion. Enfin, il y a là, celui qui interprète, c'est aussi celui qui repense la musique, qui ne cesse pas d'ailleurs de travailler et de penser aux œuvres qu'il interprète et qui donc y met sa propre pensée. Enfin, cette image que l'on a d'un interprète qui ne serait précisément que quelqu'un qui se contente de lire une partition est éminemment fausse. Il y met presque, il la recrée d'une certaine manière.
Il la recrée et peut y repenser toute sa vie. On a des exemples. Bah, chez Chilimidac, c'est assez parlant parce qu'il adaptait chacune de ses interprétations, par exemple, à l'acoustique de la salle. Mmh. Et donc, chacune de ses interprétations demandait une sorte de méditation intérieure sur la salle, mais pas que. Et il a réfléchi les mêmes pièces qu'il interprète toute sa vie durant. Il les a méditées des années 50 aux années 90. Mmh.
Oui, c'est génial. Hein. Mmh. Enfin, c'est très intéressant de vous entendre, Nathalie Guilhem, parce que c'est là qu'on comprend bien que le développement de la musique n'est pas celui signifiant d'une parole. Donc la musique est expressive, mais n'est pas figurative. C'est-à-dire que l'expression de la musique est inexpressive au sens où on l'entendrait du point de vue du logos, en fait.
Tout à fait.
On se situe ailleurs. Dans dans une autre dimension de conscience, on pourrait dire.
Oui, c'est
sensation, je sais pas.
C'est intéressant dans cette émission qu'on évoque quelque chose qui est quand même un cliché qu'on entend encore, c'est que la musique est un langage. Enfin, ouais. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on entend par langage? Mais tu viens à l'instant de le rappeler. Il ne s'agit pas de confondre la musique avec un logos. Enfin, avec ce que les mots sont de manière, on pourrait dire, tels qu'on les entend. Il y a quelque chose qui vient dépasser. Que la musique vient dépasser ce que les mots parfois sont impuissants à dire, et je pense notamment à des sentiments. Enfin, si on pense on sort un petit peu, mais à certains opéras, la musique est capable d'exprimer des sentiments que les mots, et on pourrait là parler presque aussi des romanciers, sont impuissants à dire.
Hein. Oui, je pense à l'instant où je t'entends, Nathalie, à une composition qui m'a toujours troublée, tant elle met en lumière ce qu'on est en train de dire, c'est Les oiseaux de Messiaen. Alors j'en avais déjà parlé après un cours à Guilhem, et c'est vrai que c'est une pièce où l'on entend le chant des oiseaux, d'une certaine manière, mais où en même temps on le dépasse. Donc c'est pas du tout une imitation de la nature. La symphonie pastorale, pareil. Donc, on entend le Beethoven à travers les mouvements. On peut imaginer la pluie, on peut imaginer l'orage, on peut imaginer le soleil sur la prairie. Mais c'est bien au-delà de tout ça. Si bien que j'entends, moi, quand vous parlez de musique, Guilhem, une nécessaire des représentations de nos représentations convenues pour aller au-delà de ce que vous appeliez tout à l'heure au-delà de la représentation, c'est-à-dire pour effectuer une percée en quelque sorte, la percée du sens convenu des mots qu'on emploie beaucoup. Les mots couvrent une dimension du réel si bien qu'ils font écran, qu'ils finissent par faire écran. Mais quand la musique devient un chef-d'œuvre, une symphonie, une sonate, tout à coup on est comme déporté vers une autre dimension de soi, en fait.
Oui, oui, tout à fait. Et en même temps, la musique détruit certaines représentations pour en recréer d'autres. Écoutez un panel après un concert, ça recrée en eux des représentations que pour certains, ils n'avaient même pas imaginées. Alors que le compositeur, si on prend le cas de la symphonie pastorale, il y a par exemple un enregistrement qui a été fait pour la radio par Léopold Stokowski, le chef d'orchestre, pour parler en comparant des sons de la nature qui ont inspiré Beethoven avant de mettre l'extrait de la symphonie pastorale qu'il a dirigé, pour les mettre en relation et comprendre en quoi Beethoven a à la fois reproduit et à la fois dépassé le son de la nature.
Mais alors j'ai une question, peut-être très naïve, parce que je suis pas musicienne. Quand on dépasse ce son de la nature, quand on va au-delà, pour reprendre le mot, qu'est-ce qu'on atteint? Qu'est-ce que c'est que cet au-delà? Est-ce que c'est plus vrai, plus profond, ou est-ce que c'est tout simplement un envers? Mais qu'est-ce qu'il nous apporte? Enfin, vous voyez, comment on pourrait le qualifier? Qu'est-ce qu'il nous donne à expérimenter en plus? Est-ce que c'est une expérience qui vient s'ajouter à une expérience, Guilhem? Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes et d'appréhender le réel de manière peut-être plus juste? Mes questions sont naïves, vous voyez, parce que c'est toujours des questions qui nous renvoient à ce que peut la philosophie. Aujourd'hui, quand elle analyse des disciplines qui ne sont pas la sienne et qui, pour autant, entrent en dialogue avec elle, et dans quelle mesure elle peut nous éclairer, si on peut le dire comme ça, avec le concept. Comment, au fond, on peut signifier cet au-delà de la musique? Qu'est-ce qu'on y atteint? Quelle est votre réponse?
Vous voulez dire ma réponse subjective? Ce oui, que moi, j'en
oui,
pense.
Oui, oui.
Oui, alors le terme d'envers est assez adapté, je crois. Elle révèle quelque chose que quelquefois on n'avait pas pensé, notamment sur certains sujets, quand on travaille par exemple, et la musique avec laquelle par exemple je travaille n'est pas la même que celle que je vais écouter au concert régulièrement, mais parce que chaque musique a aussi cette faculté de réveiller quelque chose de différent, de réveiller, de rappeler, ou même de créer, même si on recrée toujours. Mais de ce point de vue-là, les œuvres sont différentes et les interprètes sont aussi différents. Sur, par exemple, je reprends l'image du concerto de Mozart, ce qu'évoque Curzon et Askill, par exemple, avec leur forme de douceur, n'est pas du tout la même chose. L'un évoque des couleurs. Mm. J'ai une certaine tendance à la synesthésie, ça m'évoque des couleurs. Alors que Askill évoque une forme de violence presque en retrait, de violence presque en puissance.
C'est très intéressant, si vous permettez que je lise un extrait, parce que Guilhem, vous m'avez fait penser à mon auteur fétiche, qui est François Châtelet. Je me permets de citer un extrait de son livre, malheureusement non republié, qui s'appelle « La chronique des idées perdues », paru chez Stock en 1977, je vérifie à l'instant pour ne pas dire de bêtises, et les gens qui pourront regarder sur Internet, oui, c'est 1977. Et voilà ce qu'il dit, parce que vous venez à l'instant, Guilhem, de parler des conduites, d'une certaine manière, de ce que la musique que nous écoutons selon ce que nous faisons dans la journée. Alors voici François Châtelet, ce qu'il dit sur une musique qui faisait partie de sa vie. Lorsque j'examine ce qui se passe, je m'aperçois que par rapport à cette réalité quotidienne, donc la musique, j'adopte trois conduites différentes. Il y a la musique que j'écoute seule, dans la journée, lorsqu'il n'y a personne. J'y suis présent tout entier. Depuis quelques années, c'est à peu près exclusivement de la musique de chambre, de Pergolèse à Brahms, avec une insistance particulière pour une vingtaine d'œuvres, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann. Ces quatre derniers mois, j'ai écouté au moins trois fois par semaine le premier quatuor Rasoumovsky de Beethoven. Il y a la musique que je partage avec, pour partenaire privilégié, Noël. Donc là, je précise qu'il s'agit de Noël Châtelet, l'écrivain, hein, qui était la femme de François Châtelet, lui-même philosophe. Donc il y a la musique que je partage avec, pour partenaire privilégié, Noël. Symphonie, concerto, mais surtout opéra. Notre engouement pour Verdi ne se démentant pas. Il y a alors relation de chacun à chacun qui s'établit dans et par ce que nous entendons, avec des sommets, des chutes, des lassitudes et des enthousiasmes. Si nous avons vu le drame sur scène, alors les souvenirs s'y mêlent. Mais ce qui me frappe, c'est que, de toute évidence, notre plaisir provient, même lorsque nous connaissons l'œuvre par cœur, de l'implacable extériorité qui nous accable et nous ravit. Il y a enfin la musique que je mets, le plus souvent la radio, quelquefois, un disque, lorsque j'ai quelque autre occupation principale. Cela peut aller de la confection d'une béchamel à la rédaction d'un article en passant par les mots croisés du monde. Je n'accepte pas que l'on traite cela de fond sonore. Je suis en éveil. Je perçois des séquences. Et si quelque événement se produit, une interprétation qui me surprend ou que je n'avais pas remarqué, un coup de foudre, alors je m'interromps. Et j'écoute. En vérité, je déteste la mollesse et la futilité de mes rêveries. Lorsque je ne suis pas suffisamment passionnée par ce que je fais, la musique provoque mon activité. Alors je vous laisse, je vous citerai aussi quelque chose tout à l'heure de François Châtelet, mais ça, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, Guilhem, ça m'a fait penser à cet extrait-là, c'est-à-dire la musique à différents moments de notre journée qui accompagne différents... alors là, il s'agit de différentes activités. Hein, François Châtelet est quelqu'un qui travaille énormément, hein, comme le grand philosophe qu'il était, et la musique est toujours là. Et ça, alors je ne sais pas, j'ai envie de vous faire parler sur cette idée du fond sonore, que moi, il m'arrive. Hein, je travaille aussi en musique comme fond sonore, et j'aime bien cette idée qu'elle n'est pas un fond sonore, qu'elle est suffisamment puissante pour d'un seul coup... éveiller notre curiosité ou réveiller notre curiosité ou notre mémoire.
Oui, réveiller la curiosité, c'est vrai. Et puis, en tout cas, chez moi, ça peut m'aider à travailler dans le sens où ça me fait me ressouvenir de quelque chose que j'avais oublié. Et de ce point de vue-là, la musique n'est jamais un fond sonore car, justement, elle me maintient en éveil. Et d'ailleurs, je ne choisis pas, comme je le disais, en fond sonore, si on peut parler ainsi, mettons oui. entre guillemets, disons fond sonore, une musique qui serait la même que celle que j'irais écouter en concert. En tout cas, même si c'est a priori la même œuvre, déjà ce n'est pas la même interprétation, premièrement, et deuxièmement, la plupart du temps, je ne la perçois pas de la même manière, je ne la considère pas de la même manière, et je n'écoute pas les mêmes choses en elle. Je n'écoute pas les mêmes sonorités, évidemment, mais pas non plus la même cohérence et pas non plus le même climat.
Oui, tout à fait. On sera peut-être amené à reparler de cette musique qui accompagne nos humeurs et nos activités de la journée. Et peut-être on va peut-être écouter le second morceau dont vous nous avez proposé l'écoute aujourd'hui. Donc c'est un morceau extrait de Rameau, La Poule. Et vous nous avez demandé l'interprétation de Marcel Meyer au piano. En 1953, vous nous faites écouter quelques secondes ou une minute Là, on s'était dit...
3 minutes.
Trois minutes. Très bien. Super. Eh bien, on écoute.
Thank you.
Alors, on vient d'écouter un extrait de Rameau, La Poule, l'interprétation est de Marcel Meyer au piano en 1953 chez Warner. Alors, première question, pourquoi le choix de Marcel Meyer de cette interprétation et pourquoi le choix de La Poule par rapport à cette question de la musique comme reproduction du réel, point d'interrogation.
C'est justement, encore une fois, là, c'est la même question qui revient, parce que Rameau part de la représentation qu'on se fait traditionnellement du cri de la poule, et il va la dépasser, la, presque la transfigurer complètement, pour en faire une pièce cohérente. Et Marcel Meyer va encore plus loin, puisqu'elle elle rend presque fluide, presque liquide, la pièce. Elle joue moins sur les contrastes que d'autres interprètes qui cherchent à rendre quelque chose de plus rustique, par exemple.
Donc du coup, ce qui veut dire pour vous quand vous dites ça, c'est qu'elle, elle, du coup, elle va encore gommer tout cet aspect de la reproduction du réel que serait le cri de la poule qu'on se ferait, l'opinion du cri de la poule en fait. Par son interprétation, elle tend à se défaire par son jeu d'une représentation qui rappellerait encore trop. La matérialité de la poule, en fait.
Ah, sans doute, c'est très bien résumé. Après, je ne sais pas si c'était exactement l'intention de Marcel Meyer.
Mais en tout cas, c'est ce que vous y voyez.
Exactement. Oui.
Alors, si on peut peut-être un peu développer cette question de l'interprétation et de sa place dans la manière de dépasser le réel. Comment est-ce qu'on peut, ici, dans cet extrait qu'on vient de voir, en parler à nos auditeurs ?
C'est-à-dire, je peux vous demander de reformuler ?
Oui, peut-être, tout simplement... Puisque là, la pièce s'appelle La Poule, hein. Enfin, en tout cas, cette musique-là. En quoi, finalement, l'interprète vient peut-être sortir de bon, ce qu'on appelle en philosophie la phusis, enfin la nature, hein. La musique ne serait que représentation de ce qui existe déjà. Et comment l'interprète, et éminemment celui qui a créé cette pièce de musique, font pour, finalement, tout en partant du réel, s'en extraire,
et quelquefois aussi, chez certains interprètes, il y a une volonté de recréer le cri de la poule, de le recréer presque à l'identique, de donner quelque chose d'extrêmement figuratif. Et chez d'autres interprètes, il y a la volonté de s'en défaire complètement. Et la composition, avec ce qu'elle indique, donne néanmoins une liberté d'interprétation, c'est le cas de le dire, qui permet une grande diversité.
Et dans ce choix que vous avez... que vous avez voulu de nous faire écouter l'interprétation de Marcel Meyer, y avait-il chez vous la volonté finalement de nous faire entendre une interprétation qui serait moins dans le figuratif dès lors ?
Ah oui, tout à fait cela. Et une interprétation qui, ce qui est fabuleux chez Marcel Meyer, je trouve, c'est une faculté de jouer sur les contrastes qui est hors du commun, avec ses graves qui sont presque détachés parfois, sans jamais tomber dans la caricature, dans une forme de jeu perlé ou de jeu trop démonstratif. C'est aussi le piège quand on interprète. Le piège de l'interprète, c'est aussi devenir trop démonstratif dans une volonté d'appuyer son propos. Et Marcel Meyer fait toujours dans la nuance.
Oui, c'est-à-dire un entre-deux entre le respect de l'œuvre et la touche que l'on va y mettre en tant qu'interprète.
Ben, c'est un travail de funambule, concrètement. Oui. C'est un travail d'équilibriste.
Oui, oui.
Oui, j'allais le dire parce que l'interprète, en quelque sorte, danse sur le fil entre deux écueils possibles qui le guettent. De même que Diderot pourrait parler d'un paradoxe du comédien, on pourrait parler d'un paradoxe de l'interprète, au sens où l'interprète qui serait censé reproduire quelque chose ne doit pas le faire, sinon il tombe dans l'écueil d'une sorte de... d'imitation, hein, de mauvaise mimésis, et puis de l'autre, un interprète, au contraire, comme vous le dites, qui pourrait effectivement tellement s'en éloigner de cette idée principale qu'il finit par la perdre. Alors, l'équilibrisme ici tiendrait à cet art du funambule, c'est-à-dire au fond à une manière de danser sur la corde, hein, pour reprendre un élément d'un instrument de musique.
Et de danser avec la manière aussi.
Et de danser avec la manière.
Exactement. Et il y a l'idée, oui, qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'être démonstratif, d'appuyer trop son propos l'écueil de se perdre, de se perdre dans le détail, dans l'anecdotique, et de rendre son interprétation complètement anecdotique par cette perte.
Alors pour ça, moi, je reviendrai un peu à Vladimir Jankélévitch, à ce qu'il dit dans La musicale ineffable à la fin de l'essai, page 157, quand il rapproche Debussy et Plotin. Il dit quelque chose d'assez étonnant qui rejoint ce que vous affirmez, Guilhem. La musique elle-même s'exprime parfois, non pas exhaustivement, mais allusivement et à demi-mot. Le logos suspendu chez Plotin, la sérénade ininterrompue chez Debussy sont deux manières d'étrangler l'éloquence et deux formes de la pudeur humaine devant l'indicible. Alors, ce qu'ils nous disent, les points de suspension du sous-entendu, ce serait en quelque sorte une manière de donner la place à cet auditeur qui va lui aussi reconstruire quelque chose par l'espace qui lui est donné, c'est-à-dire les points de suspension. Ces points de suspension, on pourrait dire qu'ils pourraient signifier ce funambule interprète.
Ce funambule interprète qui est presque un jongleur, en fait, finalement, parce qu'il jongle avec des aspects divers, il les contraste, il choisit entre eux lequel il va, par exemple, le plus souligner, lequel il va mettre en retrait. C'est aussi ça, le travail de l'interprète.
Ouais. Et de fait, alors, on peut vraiment, là encore, redire que ce n'est pas une représentation comme l'image qu'on en a dans l'ordinaire, mais davantage un art du temps, la musique.
C'est un art du temps et qui est presque une invitation, finalement, qui est une forme de mise en retrait de l'interprète pour permettre à l'auditeur de lui projeter. C'est à l'auditeur de projeter, c'est à l'interprète de lui permettre de projeter. C'est aussi ça, le rôle de l'interprète. Et quelquefois, l'interprète, en étant justement trop démonstratif ou en se perdant dans le détail, en voulant en faire trop, par exemple se perdre dans une trille ou dans une variation qui est plus petite que les autres ou qui est mineure ou qui apporte un scherzo, une détente. Et finalement, c'est le risque de prendre trop de place et de ne pas laisser à l'auditeur la place de s'installer à côté.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire, avec François Julien, quand François Julien parle de l'art de flotter, pour reprendre cette philosophie de l'extrême-orient, que l'interprète ne pense pas, il flotte?
Ah ben, il est dans un moment de flottement, c'est clair, et il doit inviter l'auditeur à être aussi, lui aussi, dans ce moment de flottement avec lui. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, au contraire, c'est presque une alliance des deux.
Complètement, donc la musique, ce serait un monde flottant.
En quelque sorte, oui.
Estampe japonaise.
Oui, tout à fait.
Mais je laisse la parole à Nathalie.
Mais il est... Si nous écoutions votre dernier morceau, voilà, parce que le temps avance et on va pouvoir peut-être un peu avancer sur cette question de la musique et dans son rapport au réel. Hein, qu'est-ce que la musique nous dit du réel, cet au-delà, et en même temps, elle part de ce réel. Alors voilà, on peut peut-être essayer de... Alors vous avez choisi comme dernier morceau pour faire écouter à nos auditeurs aujourd'hui, Arturo Benedetti,
Michelangeli, voilà, qui joue la sonate de Beethoven, la dernière, opus 11.
Voilà.
L'opus 11.
J'ai bien fait. On a coutume, dans les traités d'esthétique, d'associer la musique à la temporalité dans le souci classificatoire de la distinguer dans l'ordre des beaux-arts, des arts plastiques. Je n'expérimente rien de tel. Si la musique a quelque fonction de cet ordre, elle est de désarticuler la représentation unitaire du flux qui s'écoule, que propose et impose le vécu dans sa prétendue immédiateté. Ce n'est pas comme le XIXe siècle a tenté d'en accréditer l'idée que ce soit l'essentiel de l'art en général que d'apporter ici-bas le substitut sensible de l'éternité, l'art musical réussissant particulièrement bien dans cette entreprise, dans la mesure où il est directement confronté avec l'adversaire. Une pièce musicale, ce septième quatuor de Beethoven que j'évoquais à l'instant, agit comme un champ matériel constitué de qualités sonores, tantôt légères, tantôt lourdes, tantôt fluides, tantôt épaisses qui se superposent, se combinent, s'amalgament en mouvement. Le calcul des mouvements, tous singuliers, produit par les trajectoires entremêlées des éléments sonores, construit un espace volumineux qui s'en vient, s'avance, se replie sur soi, se dilue, explose, s'annihile, se déploie. C'est comme surface se déployant et comportant des dénivellations et des degrés que la composition musicale est agissante. Elle n'a aucun effet de profondeur, sinon au sens matériel où il lui arrive de vriller les viscères et de crisper les muscles. Elle n'est pas plus une maîtrise ou un jeu du temps que la peinture n'est une technique de l'espace plane et la sculpture de l'espace à trois dimensions. Certes, elle peut produire l'impression de la durée qui s'écoule, de l'événement qui se précipite ou de la stagnation. Ce n'est là toutefois qu'un aspect. Les métaphores que je viens d'employer ont toutes un commun défaut. Elles situent l'effet musical dans le domaine de la représentation. Or, la musique ne présente ni ne représente rien, même apparemment. Elle a ce privilège, par ses artifices, de rendre sensible à toute la superficie du corps, y compris les parties dites profondes de celui-ci, l'impact des qualités sonores et de leurs combinaisons. C'est une mauvaise image que de dire qu'une stridence musicale déchire les oreilles. Elle fend comme un coup de sabre du crâne au pubis. Comment des crins de queue de cheval collés, frottés sur un morceau de boyau de mouton tordu peuvent-ils produire des émotions sublimes, se demandait Aldous Huxley. Parce qu'une émotion sublime, c'est encore de la chair qui tressaille. Alors nous sommes dans ce dernier moment. Là, je viens de relire François Châtelet, Chronique des idées perdues, paru en 77 chez Stock. Comment, dans cette dernière partie d'émission, on peut peut-être essayer de réfléchir cette réconciliation que fait la musique entre l'intelligible et le sensible. Guilhem, nous vous donnons la parole.
La musique, c'est l'art de l'entre-deux. C'est l'art qui peut réconcilier parce qu'elle est dans la mesure, dans la nuance entre les choses. Elle les relie. Et de ce point de vue-là, elle arrive par exemple à relier quelque chose d'horizontal qui semble flotter à quelque chose de vertical qui monte ou qui descend. Et la musique, de ce point de vue-là, réunit énormément de domaines. Elle réunit, François Châtelet en parlait, la spatialité, mais aussi la durée. Et à chaque fois, on identifie un aspect et on se rend compte que ce n'est pas que cet aspect-là. On peut penser à... On peut penser à la musique comme sensible, comme sensation, mais en même temps, on pense à quelque chose en écoutant de la musique. On crée une représentation intelligible en écoutant de la musique. On peut même penser à des concepts et les élaborer en écoutant de la musique. Et la musique réconcilie de ce point de vue-là.
Isabelle.
Alors oui, j'entends bien là la phrase de Guilhem, la musique réconcilie de ce point de vue-là, je vous cite Guilhem, et ça me fait vraiment penser à ce que dit Francis Wolff à la fin de son volume très intéressant, Pourquoi la musique, où il interroge cette réconciliation, justement, enfin en la mettant en perspective avec certains morceaux musicaux, donc, et ça rejoint exactement ce que vous disiez, Guilhem, parce que quand on vous écoute, on entend aussi cette capacité que la musique nous donne de rester vigile, d'une conscience vigile et nue. C'est-à-dire que cette nudité de la conscience serait comme l'exigence de faire place, de laisser place, donc de l'écoute en fait. Et cette écoute qui, vous voyez, comme une marée qui se retire et qui laisse place en révélant ce que
voilà, le sable pourrait faire émerger de vivant, bien ce serait peut-être ce lien à la chair du texte de François Châtelet que Nathalie vient de nous lire. C'est-à-dire que si on tressaille, dans le fond de son être, s'il y a un tremblement intérieur suscité par la musique, c'est bien qu'elle nous a permis une autre forme d'intelligence, comme si on était passé à une autre dimension de la conscience, que j'appelais l'infraphénoménologie du début, en fait. Mmh. En quelque sorte, une pensée méditante, un peu comme celle dont parle Heidegger, parce que dans l'infraphénoménologie, moi je pense surtout à lui, c'est-à-dire une pensée voilà, qui est en deçà des mots, et qui donne à faire éclore une dimension incarnée de l'homme, une chair pensante. La chair des notes, la chair des sons, dont parle Francis Wolff, justement.
C'est aussi tout le propos de l'œuvre qu'on vient d'écouter, qui est la 32e sonate de Beethoven, la dernière, et dont tout le deuxième mouvement se construit en miroir du premier sur une ascension qui est comme un parcours. On pourrait y voir un parcours mystique, un parcours initiatique, que sais-je. Et en tous les cas, ce parcours, c'est pas seulement du dépassement. C'est aussi une meilleure connaissance de soi. À une écoute de l'opus 11, on pourrait presque dire qu'on se connaît mieux après qu'avant.
Complètement, ouais, je trouve aussi.
Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin. On
Merci.
Va remercier et souhaiter que Guilhem Chaméra revienne nous voir à Radio Aligre. Voilà, pour, alors on dit que vous avez une chaîne YouTube. Vous rappelez quelle est voilà, la volonté de cette chaîne ?
Sophronie Christ, pour remettre en lumière les interprètes du passé. Et remettre en lumière également les grands enregistrements du passé.
Eh bien, félicitations en tout cas et longue vie à cette chaîne. Et merci d'être venu. On espère vraiment, Guilhem Chaméra, vous revoir avec grand plaisir.
Ah oui, vraiment.
Merci Isabelle de cette émission, de cette
merci,
proposition
Nathalie.
Autour de la musique et nous y reviendrons. Merci à nos auditeurs que nous renvoyons au site internet du Collège international de philosophie pour l'annonce des prochaines émissions. Merci à tous.
Merci
bonne
à
journée.
Tous. Bonne
au revoir.
Journée.